Nous sommes en avril 2012 et vous écoutez un dossier de Proxy Jeux. Et aujourd'hui, on va vous parler de jeux de cartes évolutifs et on va vous parler du Seigneur des Anneaux. Bonjour Jérémy.
Bonjour Olivier.
Tu vas bien ?
Oh, ça va.
Eh bien écoute, moi ça va très très bien puisque je vais parler peut-être d'un de mes coups de cœur de ces dernières années.
Fuyu à Krosno ?
Oui, tout à fait, de Fuyu à Krosno, Martin Wallace, tout ça. Non, je vais parler du Seigneur des Anneaux. Je vais parler jeux de cartes à, pas à collectionner mais évolutifs. Et puis je vais parler de jeux coopératifs avec le Seigneur des Anneaux.
Alors
on va peut-être déjà remettre le jeu de cartes évolutives, le Seigneur des Anneaux, dans son contexte. C'est un jeu qui est édité à la base par Fantasy Flight Games, qui est réédité ou coédité par Edge Entertainment en France, qui est francisé et qui fait partie d'une série. Donc on a l'Appel de Cthulhu, qui se passe dans l'univers de Lovecraft. On a le Trône de Fer qui se passe dans l'univers de Westeros et de George Martin. Si vous regardez la série, on ne vous parlera pas de Boromir. Le Trône de Fer qui a aussi son JCE.
Tu viens de le dire, oui. Et Warhammer Invasion.
Warhammer Invasion. Qui est le dernier, enfin qui n'est pas le dernier, mais c'est en fait le dernier justement, c'est le Seigneur des Anneaux, plus récent. Il y a un comparatif chez Gus & Co. Si vous avez envie de vous remettre dans le bain et d'avoir un petit... Une petite remise au point de chaque JCE, bah vous allez sur son site. Voilà, c'est un jeu de Ned French chez Fantasy Flight Games, qui est édité en français par Edge Entertainment. Plusieurs illustrateurs différents ont collaboré pour travailler sur ce projet-là. Il y a énormément de cartes, donc c'est un petit peu comme dans tous ces jeux de cartes où il y a beaucoup d'illustrateurs, mais il y a une cohérence qui est assez intéressante. C'est vraiment un univers qu'on reconnaît.
Et les cartes font la part belle aux illustrations quand même.
Ouais, c'est...
Il n'y a pas de bord.
Incroyable.
Actuellement, il n'y a pas de bord noir, bord blanc en bout.
Ouais.
C'est important à signaler, ça choque tout de suite quand on voit le jeu.
Mais c'est la première chose que je veux dire, en fait, c'est qu'au niveau de l'esthétique, c'est très très joli.
C'est très soigné, ouais.
C'est-à-dire que j'ai fait la même remarque que toi quand j'ai ouvert la boîte de base, c'est que... on ne dirait pas je suis habitué aux cartes Magic où tu as une bordure et en fait tu n'as pas cette bordure là. Tu as plein d'informations sur les cartes et surtout une belle illustration qui prend beaucoup plus que la moitié de la carte. Enfin, qui prend plus de la moitié de la carte. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. C'est un jeu qui se joue en solo mais qui est dans ce cas là assez difficile. Qui se joue à 4 joueurs. Il manque du matériel dans la boîte de base pour jouer à 4.
Il faut deux boîtes.
Il faut deux boîtes ou il faut... Enfin, quand je dis manque du matériel, c'est-à-dire que dans la boîte de base, on va trouver des compteurs de menaces, en fait, puisque une chose qu'on va mesurer, en fait, c'est la visibilité de la compagnie qu'on va commander dans l'univers. C'est-à-dire qu'on est dans l'univers du Troisième Âge, on va avoir des personnages qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on va avoir comme héros Bilbo, Frodo, on va avoir Legolas, on va avoir Boromir... Et on va constituer une petite équipe qu'on va envoyer pour résoudre des quêtes. Et on a un petit compteur de menaces. Et ce compteur de menaces va avoir une grosse influence sur le jeu parce qu'en fait, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, la visibilité qu'on a, c'est un petit peu les traces qu'on laisse. Voilà, c'est les traces qu'on laisse dans notre quête. Et en fait, on va être plus repérable, plus la menace sera importante et plus on va être repérable. Et plus les monstres vont nous tomber dessus.
Oh.
Et puis, quand on va arriver 50 points de menace, on aura perdu. Donc, dans chaque boîte, on a deux compteurs. Il en faudrait 4 si on veut jouer à 4. Ça, c'est juste un détail. Le jeu, pour ma part, est fait pour jouer à 2. C'est-à-dire que à tout seul, pour les premières extensions, pour la boîte de base et pour les premières extensions, c'était un peu compliqué. C'est compliqué pour plusieurs choses, notamment parce qu'on va trouver des orbes. Des couleurs en fait de cartes et que on ne peut pas multiplier en fait ces couleurs quand on est tout seul. Donc ça c'est une première contrainte, c'est que tu vas pouvoir faire des decks mono couleurs et c'est une contrainte assez forte.
Tu fais pas bicolore C'est trop compliqué, mais bicolore.
Mais bicolore, c'est bien, mais t'as quatre couleurs, en fait, dans le jeu.
Ouais, 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 donc tu peux pas. Il faut une complémentarité entre les deux joueurs.
C'est plus facile quand t'as cette complémentarité-là. Bien que tu peux dire, je fais du monocolore, l'autre aussi fait du monocolore, et puis vous y allez, quoi. C'est un peu dangereux, mais vous pouvez. Et puis, ça se joue à 4, mais à 4, un des défauts du jeu, c'était qu'au départ, le jeu n'était pas très très équilibré, enfin, était vraiment fait a priori pour deux joueurs. Et en fin de compte, quand t'étais à 4, t'avais plus de possibilités, t'avais plus de potentiel, plus de ressources, et c'était beaucoup plus facile.
Parce que tu peux jouer 4 couleurs en mono.
D'abord, et puis en plus, puis bêta plus, c'était pas équilibré dans ce sens-là.
C'est un argument marketing qui ne marche pas selon toi. Enfin, tu veux dire
c'est un argument marketing, je pense que ça marche, mais...
Oui, ça marche, mais c'est pas là que t'as ta meilleure voilà, contre. D'accord.
Donc, globalement, comment est-ce que ça se passe? Le déroulement du jeu, c'est que... Alors d'abord, on va choisir des scénarios pour chaque partie va commencer avec le choix d'un scénario. Les extensions successives vont rajouter plein de scénarios, et c'est ça qui fait la richesse du jeu. Et puis, on va préparer son équipe. C'est là qu'il y a la construction de deck, puisque c'est un jeu de cartes pas à collectionner, mais à construire. C'est là que la partie construction de deck va prendre tout son sens.
Mais c'est pas une construction de deck comme dans Magic ou un JCC.
Si, pourquoi?
Un JCC.
Si.
Ça te prend autant de temps à builder un deck, je veux dire
Ah bah non, heureusement.
Voilà, c'est ça la question.
Ça te prend pas autant de temps parce que en fait t'as beaucoup moins de cartes.
Ouais, t'as moins de choix.
T'as moins le choix, et puis...
Tu choisis avant tout deux disciplines, c'est ça?
Non, alors ça, c'est là, tu t'anticipes fortement sur ce que je vais dire à la fin.
Bon, bah alors dis-le, et puis...
Une des choses, c'est qu'en fait, donc là, à l'heure où on vous parle, je ne vous parlerai que du premier cycle, parce qu'on a une boîte de base qui est sortie, et après, t'as un premier cycle, c'est le cercle de Mirkwood. Alors ça s'appelle pas comme ça en français... Si, c'est le cycle de Mirkwood. Qui a 6 extensions avec 60 cartes. Et après, tu as une extension Print of Demand, imprimée à la demande, plus une extension qui s'appelle Deluxe, et qui débute en fait le cycle des Kevna. Donc en fin de compte, tu vas avoir une boîte de base avec je ne sais pas combien de cartes, ça, tu me le diras peut-être. Et puis après, bah, tu vas avoir ces extensions. Ça amène beaucoup de choses, mais tu ne vas pas tout utiliser, notamment... Une des choses que j'ai regretté, c'est que dès la première extension, tu vas avoir des aigles. Et tu te dis, super, je vais pouvoir faire un paquet aigles. Mais tu les mets de côté parce qu'en fait, t'en as pas assez pour faire quelque chose. Elles interagissent ensemble et tu te dis, on va pouvoir, il y a du potentiel, mais je vais pas les jouer parce que là, pour le coup, je ne peux pas construire mon deck avec. Donc tu les laisses de côté. Et en fin de compte, c'est comme ça qu'au début, quand t'as une, deux extensions, tu vas pouvoir avancer. C'est-à-dire que tu dis, bon ben voilà, ça de toute façon, je prendrai pas. Il te faut 50 cartes, ben t'arrives à tes 50 cartes. Donc c'est plutôt ça, tu déconstruis, enfin tu construis ton deck, mais un petit peu par défaut, surtout avec la boîte de base. Après, c'est un peu différent.
Donc 226 cartes dans la boîte de base, et donc en fait, c'est plus dur de construire un deck une fois que t'as toutes les extensions.
C'est plus dur, mais il y a toujours des cartes... En fait, t'as des cartes qui sont très fortes. Et que tu vas plus ou moins choisir automatiquement. Ouais, y a des choses, y a des cartes, tu les prends, j'ai pas fait 50 parties avec chaque extension, et y a des cartes que je préfère vraiment, vraiment fortement. Donc, on part avec, on amène sa boîte, on choisit une couleur, en général c'est plutôt comme ça qu'on fait, on se dit, bah voilà, tu veux quel héros, bah moi je vais prendre ce héros-là et ce héros-là. On peut. Ouais, par exemple, on peut prendre des couleurs identiques, mais on peut pas prendre des héros identiques. C'est-à-dire que les héros sont uniques. Tu as des cartes qui sont également uniques que tu vas pouvoir jouer qu'une seule fois. Donc, en général, on essaie de, enfin, on tombe pas sur les mêmes couleurs. On n'est pas dans le même dans le même axe.
Quand tu as commencé une partie avec quelqu'un,
ouais,
c'est à ce moment-là que tu, enfin, vous avez déjà avec un deck buildé, non même pas. Tu buildes ça rapidement avant la partie, ouais, quoi. Ça prend 20 minutes et donc, tu démarres la partie.
Globalement, je dirais que une partie c'est 45 minutes, une heure. Bon, ça peut être un peu plus long si tu échanges beaucoup, si tu réfléchis beaucoup et si la partie s'enlise, mais c'est à peu près ça. Et après, faut compter une demi-heure pour builder son deck. Donc en fait, en général, on fait une partie dans la soirée, on n'en fait pas deux, trois.
Ah, c'est ça, ouais. Je voulais savoir si tu en faisais une deuxième dans la foulée. Non, tu fais qu'une quête.
Non, parce que, enfin, après, c'est plutôt un format après-midi, parce que sinon, il faut reprendre la quête. Les quêtes sont vraiment différentes les unes des autres, donc tu crées ton deck par rapport au nombre de joueurs et à ton, j'allais dire, adversaire. C'est pas d'adversaire.
non?
À ton collègue.
Ton coéquipier. Ton partenaire.
Ton partenaire. Et puis, tu crées ton deck aussi par rapport à... Enfin, t'es censé créer ton deck par rapport...
À l'aventure.
À l'aventure. Enfin, après, il y a des gens qui ne le font pas. Mais ça, c'est leur problème. Très rapidement, comment ça se passe? On va créer un deck avec des héros. On peut en prendre un, deux, trois. On va avoir un certain nombre de menaces. En général, on prend trois héros. Et puis, à partir de là, on va les équiper. Donc, c'est-à-dire qu'on va, on va avoir des alliés, des équipements, des événements. Et puis, on va avoir une, un scénario en fait, à remplir avec, en général, au départ, il y avait trois cartes. Carte 1, on la passe, une petite mise en place où on va dire, bah voilà, tu prends tel monstre, tu prends tel lieu, parce qu'il y a des lieux également à explorer. Et puis, il y a une, tu vas résoudre cette quête, tu vas passer à la deuxième carte du scénario. Et puis tu vas la résoudre, et puis tu vas passer à la troisième carte. Et c'est une super trouvaille, parce que en faisant ça, ça ouvre la porte à beaucoup de choses. C'est-à-dire que tu peux dire, à un moment donné, par exemple, les héros ne vont pas avoir de ressources. Tu dis, bah là, vous n'avez pas de ressources. Ou là, on le verra tout à l'heure avec Gollum, il y a un des héros qui porte Gollum. Et celui qui porte Gollum, non seulement il ne va rien pouvoir faire pendant ce bout de scénario, mais en plus, il va être emmerdé par Gollum. Et après, bah, peut-être Gollum peut passer d'un héros à l'autre. Il y a un dans Khazad Dûm, il y a le porteur d'un grimoire. Et donc, lors d'une des cartes, il va être impacté par cet objet et après, il ne sera plus. Donc, tu vois, tu peux imaginer plein de choses et c'est vraiment une mécanique qui est vraiment très, très intéressante et qui est vraiment au cœur du jeu, en fait, ces quêtes. Donc tu as construit ton deck par rapport à ton scénario, et puis tu commences à jouer. Alors le déroulement, c'est que tu vas piocher, tu vas faire des attachements, ce qu'on appelle des attachements, tu vas équiper en fait tes héros, tu vas ajouter des alliés à ton équipe, et puis après il y a deux vraies phases en fait. Il y a une phase de quête et une phase de combat. Sur les quêtes, les cartes de scénario, tu vas avoir un chiffre. Ce chiffre va se retrouver également sur les lieux qui vont se retrouver au milieu de la table avec des combattants, enfin des adversaires orques, loups, orientaux, tout ça. Et l'idée, c'est que tu vas faire un choix, c'est-à-dire que tu as une compagnie et tu vas dire, ben voilà, moi je vais, il y a une partie de la compagnie qui va aller en quête, qui va trouver des indices, qui va explorer des lieux, et puis tu as une partie de la compagnie qui va, elle, garder les fesses de l'autre partie en disant bah oui ok bon mais là les trolls vont nous tomber dessus, nous on reste là pour défendre et puis on va y aller. Donc tu vas choisir d'abord, il y a en fait des caractéristiques sur les héros, des caractéristiques d'attaque, de défense et de volonté, et tu vas en fait miser un certain nombre de volontés dans la quête en cours. Entre les deux joueurs, on va faire un chemin de menace. Sur ce chemin, on va avoir un certain nombre de lieux et de créatures, c'est ce que je disais tout à l'heure, et on va ajouter en fait la menace qu'il y a sur ce chemin. On va soustraire ce chiffre au chiffre que tu as engagé pour faire la quête. Et toi, ta mission, c'est d'avoir plus, enfin le groupe doit avoir plus que la menace qu'elle va rencontrer.
Il y a un petit facteur inconnu, puisqu'on retourne une carte.
Voilà, on va rajouter en fait, tout n'est pas connu, puisqu'il y a ce qui se trouve sur le chemin, le cheminement de la menace, et on va rajouter encore deux cartes qui pourront être de la menace supplémentaire, alors qui pourraient être des cartes traîtrises ou des choses comme ça qu'on ne va pas comptabiliser. Et deux solutions, c'est soit tu es supérieur à la menace globale qui va t'entourer et tu vas ajouter des points sur la carte.
La
quête, donc ça va te permettre d'avancer dans la quête et ça va te permettre de la retourner puis
c'est quasiment ton seul moyen de réussir les quêtes.
Oui, c'est ça,
c'est pas négligé quoi.
Tout à fait, mais c'est aussi comme ça que tu vas avancer sur l'exploration des lieux. Et en fait tu vas d'abord ajouter des points sur les quêtes, ensuite quand tu auras commencé tu vas pouvoir visiter un lieu, et quand tu visites un lieu tu vas rajouter aussi des points de quête. Tu vas soustraire ce lieu à la menace globale qui t'entoure. Ça te ralentit. Ça, c'est la première phase. Donc, tu as engagé comme un Magic des personnages dans cette quête. Et ensuite, la deuxième phase, c'est la phase de combat.
Tu joues avec les autres personnages.
Et là, les autres personnages vont soit défendre, soit attaquer. En fonction du niveau de menace que tu représentes, tu vas être attaqué par les créatures qui sont sur
les
le
ennemis
sur
en fait
chemin.
vont te voir ou pas, ça, en gros,
C'est ça,
te tomber dessus.
ouais, c'est le bruit que tu fais. C'est si tu es connu, si tu es un héros, plus les héros sont puissants, plus ils ont un chiffre de menace important. Et puis ils vont se faire attaquer, puisque forcément on va les repérer. Ça, c'est très 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 logique. Et il y aura une phase de combat qui va impliquer des héros qui vont bloquer, puis des héros qui vont attaquer. Et puis voilà. Puis après, on va recommencer.
La règle, petite précision quand même, parce que moi j'avais joué avec le jeu de base, est
Ouais.
très limpide, très bien écrite.
Ah, bah pour le coup, c'est la règle qui est la mieux
Pour un jeu de
écrite.
chez Edge, j'étais impressionné par la qualité de la règle, elle est très bien écrite, il y a pas de, il y a des exemples, il y a vraiment. Donc oui, la règle est très bien écrite, c'est vraiment un plaisir à lire et on peut se lancer très rapidement dans la partie.
Globalement, les mécanismes de jeu sont là. On va créer une équipe, on va partir en quête et on va pas pouvoir tout faire puisque de toute façon, c'est soit on part pour la quête et on va mettre la volonté des héros en jeu, ou alors on va utiliser leur force, on va utiliser des tanks pour bloquer les créatures qui vont nous attaquer, et puis on va taper sur les créatures qui sont déjà engagées. Juste une précision, quand une créature attaque, elle sort du chemin dont je vous parle, la zone de
De la
cheminement.
menace.
Et la zone, et donc elle sort de la menace. Les quatre orbes.
Des disciplines, tu veux dire?
Oui, ils appellent ça ou alors du domaine, des sphères. C'est des sphères en
La
fait.
sphère.
Donc il y a la sphère de commandement qui est c'est le signe de Gandalf mauve. Donc ça met l'accent sur l'influence, le charisme, la motivation et le potentiel du héros pour guider, inspirer, commander lors des batailles aussi bien alliés que les autres héros. Bon, alors ça c'est un petit peu, je te passe ça, c'est
C'est
l'argument
la, c'est,
marketing.
ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. On sent le pompeux là.
Voilà. Alors dans ce domaine de commandement, on va trouver par exemple Aragorn. Aragorn qui est un guerrier qui a à la fois la volonté, il a deux en volonté, trois en attaque, deux en défense, et qui est sentinelle. Alors ils ont les héros ont aussi des les héros ou les alliés ont aussi des particularités. C'est un jeu de cartes, donc il y a plein 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 de choses qui sont écrites sur la carte et la carte va casser la règle, c'est-à-dire qu'on va pouvoir justement faire des exceptions à la règle. Et bah lui c'est une sentinelle, c'est-à-dire qu'il va pouvoir défendre pour un adversaire. En général,
Il se met devant, tu veux dire.
tu gères tes combats pour toi. C'est-à-dire que tu vas dire, j'engage des créatures, je vais les avoir de mon côté de la table et c'est moi qui vais les gérer. Là, en l'occurrence, il va pouvoir dire, ah ben le monstre qui est en train d'attaquer mon copain, je vais le bloquer. Voilà. Donc lui, il a cette compétence-là. On retrouve Gloin, le nain. Ah, le nain. J'aime bien les nains.
Donc c'est les compétences pour le gérer les combats plutôt.
Ouais, enfin lui, il
Il soigne
attaque.
pas
Non,
et.
non, non. Alors quand Gloin subit des dégâts, il ajoute une ressource à sa réserve pour chaque point de dégâts qu'il vient de recevoir. Au début de chaque tour, on va piocher une carte et on va mettre un marqueur de ressources sur chaque héros. Donc on ne va pas avoir un nombre infini de ressources et c'est quelque chose qu'il faut gérer. Et c'est pour ça que tu as des cartes que tu ne faut pas mettre que des cartes à 5, que des cartes à 4, parce que tu ne vas pas pouvoir les sortir. On a parlé des couleurs, on a parlé des héros, mais on n'a pas parlé on n'a pas parlé d'argent en fait. Le truc, c'est que quand tu veux poser un allié, quand tu veux utiliser une carte qui est un événement ou tu veux faire un attachement à un héros, eh ben tu vas devoir payer. Et tu payes en coût de ressources correspondant à la carte. Le coût des cartes varie de 0 à 5. Ça veut dire que il te faut 5 tours pour pouvoir poser une carte 5 avec un héros. Donc si tu fais du monocou enfin si tu fais du monocouleur, ça va aller parce que tu auras trois héros, tu vas pouvoir en deux tours tu vas le poser et tu vas pouvoir ensuite poser une autre carte. Si tu fais du tricolore, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'il va falloir que déjà tu perdes pas ton héros parce que si tu perds ton héros, tu perds complètement
La
l'usage des autres
couleur, ouais.
cartes.
Non
Et donc
mais tricolore, tu le fais, personne ne le fait, c'est
bon.
pas viable. Déjà bicolore, c'est déjà difficile, tu
Ouais,
commences à l'arbre.
t'as des cartes qui s'appellent des champs et qui te permettent de produire de la couleur que tu produis pas en général.
Ça, c'est dans les extensions.
Oui, tout à fait. Alors en mauve, tu vas trouver par exemple, tu vas trouver la cage de Dunedain qui permet de gagner le mot-clé à distance, donc d'attaquer les ennemis distants. Sentinelle qui va te permettre d'attaquer, de défendre justement alors j'ai toujours pas le mot, j'ai toujours adversaire, mais tu m'as dit
Partenaire.
partenaire, ouais, c'est ça. Tu vas pouvoir
Ça va être sympa les parties chez
bloquer.
toi.
Ouais, tout à fait. Tu
Tout
vas
je te
pouvoir
tape. Mais il y a des monstres là. Non, mais c'est toi que je tape.
Non mais toi t'es mon non voilà. Donc Sentinelle permet de bloquer les attaques chez votre coéquipier. À distance permet d'attaquer les créatures qui sont chez votre coéquipier, ce que vous pouvez pas faire normalement. Il y a une autre carte qui est super, qui est l'intendant du Gondor, qui permet d'incliner cette carte. C'est pas le héros, il faut pas incliner le héros, mais cette carte pour avoir deux ressources, pour ajouter deux ressources sur le héros. Donc ajouter deux ressources sur le héros, c'est quand même vachement bien. Et puis voilà. Donc il y a une autre carte qui est assez. Je vais vous parler des cartes qui sont assez remarquables. C'est l'attaque furtive. Donc elle vaut 1 et elle permet de mettre en jeu une carte alliée depuis votre main et de la récupérer. Tu la récupères notamment à la fin du tour. Et donc l'attaque furtive marche très très bien avec Gandalf. Gandalf qui est un personnage assez atypique puisqu'il n'est pas attaché à une sphère. Il vaut 5 à poser, donc il est assez coûteux, mais il a 4 en volonté, il a 4 en attaque, 4 en défense, et à la fin du tour, il faut le défausser. C'est-à-dire que quand il a passé un tour sur la table, ben il faut le mettre à la défausse. En plus de ça, Gandalf, il a un pouvoir un peu d'interruption, c'est-à-dire que quand il arrive en jeu, on choisit entre piocher 3 cartes, infliger 4 points de dégâts à un ennemi ou diminuer de 5 le niveau de menace. On verra par la suite qu'on peut diminuer le niveau de menace et que c'est une des contraintes fortes de ce jeu, c'est qu'on va lutter pour pas être trop visible, pour pas avoir trop de menaces, pour pas perdre la partie en fait. Donc les Gandalf c'est très fort, on en a 4 dans le jeu de base et on joue avec parce que c'est le Joker quoi, c'est le truc que tu vas sortir.
Mais tu la mets systématiquement non?
Ou dans oui.
Parce que en début de partie ils disent viens, prenez votre deck et vous le mettez quoi.
Ouais, après, t'es libre à toi de ne pas le faire. Alors, justement, il y en a 4 dans le jeu de base. Les cartes, en général, sont représentées en 3 exemplaires. Il y a certaines cartes que tu n'as trouvées qu'en 1 ou 2 exemplaires.
Dans le jeu de base?
Oui. Mais ça, c'est un peu la rule. C'est parce que tu dis tout y est, et j'ai pas racheté des cartes. Mais en fait, toutes les cartes sont pas en.
Donc, faut racheter un jeu de base? Ou tu les retrouves après dans les extensions?
Non, soit tu fais des proxys.
Tu fais des proxys.
Soit tu rachètes un jeu de base ou deux pour tout avoir. Je crois qu'il faut acheter trois jeux de base pour avoir toutes les cartes.
Ah oui, s'il y en a qui sont qu'en un exemplaire. Quelle lose.
Donc ça s'appelle du marketing.
Ouais, donc si tu veux jouer à deux, et pour certains decks, il vaut mieux avoir déjà deux boîtes de base. Ça.
Ouais, après il y a plusieurs écoles. Il y a l'école, j'ai besoin de 4 cartes identiques pour vraiment avoir un super jeu et tu vas être obligé de raquer. Ou alors tu vas te faire des proxys. Il y a l'autre école qui dit, ben voilà, bon, il y a des cartes qui sont en 3 exemplaires, des cartes qui sont en 2 exemplaires, en une, ben je vais les prendre, je les mets et puis voilà.
Ouais, parce que la question c'est, est-ce qu'elles sont en moins d'exemplaires? Parce que finalement, tu vas moins les incorporer ou c'est quand même des cartes puissantes qui sont en 1 ou 2 exemplaires seulement?
Je sais pas te dire. J'ai pas remarqué, il y a des cartes qui sont pour moi fortes et qui sont entre exemplaires, donc bon.
Ouais.
Donc,
t'as fait des proxys toi ou pas? Ou t'as non. pas eu besoin?
Non, j'ai pas eu besoin. Ouais, et puis voilà. Moi je joue plus du côté thématique que du côté technique. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je te réponds ça. Ça, c'était le domaine de commandement. C'était la sphère mauve, la sphère de commandement. Il y a une deuxième sphère qui est une sphère de connaissance, qui est la sphère verte, donc qui est symbolisée par un livre. La sphère de connaissance met en évidence le potentiel de l'esprit du héros. L'intelligence, la sagesse et les connaissances spéciales achetées avec de l'expérience appartiennent à ce domaine. Cette sphère est reconnaissable puisque d'un côté tu vas piocher, et de l'autre côté tu vas soigner. Donc on va avoir comme héros Bilbo Sacquet. Lui fait piocher le premier joueur d'une carte supplémentaire, et les cartes en main c'est des ressources, donc c'est pas mal fort. Et puis tu vas voir Denethor, il peut regarder la première carte du deck de rencontre, ce qui est pas mal parce que il permet d'anticiper parfois.
La préscience.
Mais bon, tu fais pas tout quoi. Si tu regardes, bah tu tankes pas, et lui c'est plutôt un tank parce qu'il a 3 en défense et 3 de vie. Les héros, les créatures, en plus d'avoir un bouclier et de la défense, vont avoir de la vie aussi. Alors le Pékin de base, lui il va avoir 1, et puis tu vas avoir des créatures qui ont 6, 7, 9, même plus. On parlait des cartes incontournables. T'as une carte. Alors, je parle des cartes du jeu de base. Après, je viendrai aux extensions. Le danger dans la forêt, c'est un piège. T'attaches cette carte à un ennemi engagé et il va plus ni il peut pas t'attaquer. Il y a des scénarios où t'as des trolls. Le hobbit a besoin de pièges pour combattre le troll.
Sinon, il tient pas.
Sinon, il a du mal. Parce que si tu veux, les caractéristiques de Bilbo, il a 1 en attaque et 2 en défense.
Ouf.
C'est pas foufou, quoi. Une carte qui s'appelle le savoir d'Imladris, qui permet de soigner tous les points de dégâts de ce personnage. c'est une carte événement, une carte action que tu vas jouer en cours de partie. Tu as des cartes qui s'attachent, comme je l'ai dit, à des héros ou des alliés qui vont permettre. Tu inclines cette carte, l'instinct de survie, pour soigner 2 points de dégâts. T'as compris un petit peu le principe. Le vert, c'est je pioche, je soigne. La troisième sphère, c'est la sphère bleue. C'est la sphère de l'énergie. Elle met en évidence la force de volonté du héros, la détermination, le courage, la loyauté et l'esprit sont les aspects de ce domaine, ainsi que tout ce qui touche aux éléments surnaturels de la terre du milieu. En gros, c'est les elfes, c'est la volonté, et puis c'est...
Il y a de la magie ?
Parce qu'il y a beaucoup de...
Il n'y
a pas beaucoup de magie.
Non, il n'y a pas beaucoup de magie. Non, c'est Gandalf à peine. Ouais.
C'est pas de la magie. Enfin, c'est un demi-dieu, Gandalf, mais... C'est un Istari, Gandalf. Bon, passons. Donc, on va retrouver en termes de héros, Éowyn. Éowyn qui a 4 en volonté. Donc là, tu vois déjà qu'elle va partir en quête, et avec son 1 de bouclier, eh ben, elle va pas défendre. En plus de ça, tu peux défausser des cartes de ta main pour donner 1 votant en plus à Éowyn. Donc tu vas la booster. Et puis, tu as Dunair, par exemple. Et Dunair, je l'ai choisi parce que je l'aime beaucoup. Il permet, en fait, de cibler des créatures, des ennemis, dans la zone de cheminement. C'est-à-dire qu'il peut attaquer des créatures qui ne t'ont pas attaqué, qui ne sont pas engagées avec, ni avec toi, ni avec ton coéquipier.
Tu peux pas,
en plus, non, tu peux pas. Il faut les engager. Tu as une phase d'engagement volontaire, c'est-à-dire que si tu as une menace plus importante que la menace qui est marquée sur la créature, tu vas te faire engager. Mais par contre, tu peux dire, tiens, celle-là, je vais la prendre moi, je vais me la faire, comme ça au moins elle va pas nous embêter, et puis je vais l'anticiper.
D'accord.
Lui, il peut attaquer les créatures qui sont dans la zone de cheminement. Ça, c'était le troisième domaine. Et puis, on a un quatrième qui est Baston, qui est la sphère de la tactique, qui met l'accent sur les capacités martiales du héros, en particulier tout ce qui a trait au combat, des défis tactiques que vous rencontrerez sur votre chemin. C'est clairement les nains, c'est clairement les armes. Il y a l'armure de la citadelle qui donne 4 points de vie à tes héros. Il y a un héros sur lequel ça marche super bien, c'est Gimli, qui a déjà 5 points de vie. Et qui en plus gagne 1 point d'attaque pour chaque marqueur de dégâts qu'il a sur lui. Donc en fin de compte, il se prend quelques coups et il berserk. C'est cool. Il y a des haches nains. Et puis, c'est aussi le domaine des aigles. Alors les aigles, j'en parle beaucoup parce qu'en fait, c'est une grande frustration pour moi dans ce jeu. Ils ont fait un thème, une thématique aigle, comme ils ont fait une thématique Rohan ou... Mais c'est compliqué, hein. Enfin, c'est assez particulier. Alors, autre personnage qu'on va retrouver dans ce domaine, dans cette sphère, c'est Legolas. Et lui, il est bien aussi, enfin, j'aime bien aussi. Il a 3 en attaque, donc c'est clairement un combattant. Il attaque à distance, donc il peut attaquer des créatures qui ne sont pas dans ta zone de jeu. Et en plus, quand l'ennemi qu'il a attaqué est détruit, on va placer des marqueurs de progression sur la quête. Donc c'est pas la double peine, c'est le double effet qui se coule. Il détruit la créature qui est pas chez lui, et en plus, il progresse sur la quête.
Oh là là, incroyable.
Tout ça, c'est dans la boîte de base. On va avoir des Gandalf, on va avoir Legolas. Alors pas Bilbo, Bilbo fait partie d'une extension supplémentaire.
Mais avec des tels héros, t'as pas besoin des extensions, en fait, ils sont capables de...
Non, avec des tels héros, tu peux jouer facilement. Enfin, ce que je dis, c'est que la boîte de base, elle fait 35-40 euros, et en fin de compte, c'est déjà un beau jeu. C'est-à-dire que tu peux déjà... alors, tu fais pas beaucoup de construction de deck, c'est-à-dire que t'épures un petit peu et puis t'essaies d'arriver à 50. Mais tu peux jouer, tu peux découvrir la mécanique, t'es déjà dans le thème.
Tu te familiarises avec le jeu.
Et puis, tu te fais déjà plaisir.
Il y a 3 quêtes dans la boîte de base.
Tout à fait.
La dernière, même, qui a un niveau corsé, hein, je crois.
Oui.
Elle se fait quand même. Une fois qu'on est rodé, ou bien elle a besoin quand même des extensions pour...
En fait, t'as 3 scénarios, là. Le premier scénario...
C'est juste l'intro.
Ouais, c'est vraiment pour se mettre les règles un peu en place. C'est une difficulté 1. Donc il y a une difficulté qui va de 1 à 7 pour les extensions normales, à 9 pour Osgiliath, qui est l'extension sur demande. Voilà, quoi, c'est vraiment le scénario d'introduction. Il y a 4 cartes. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'en général, il y en avait 3, mais là, il y en a 4. C'est-à-dire qu'il y a une carte 1, une carte 2, et après, il y a deux fins possibles. Bon, ça, c'est rigolo aussi, parce qu'en fin de compte, tu peux la jouer deux fois et
Deux fins différentes.
Ouais,
Tu veux dire que les conditions de victoire sont différentes?
Non, la quête sera différente. C'est pas, de toute façon,
Enfin,
la condition de victoire, c'est toujours
Oui, non,
de
mais vu
régler les
les
trois
conditions
cartes.
de finir la quête sont
Et
différentes.
ben, en fait, t'as une version longue et une version courte. T'as une version où tu auras plus de points de quête à mettre sur la carte. Et la deuxième, c'est que tu vas faire une rencontre, t'as des rencontres obligatoires, et quand t'as fini cette rencontre, bah, t'as obligatoirement gagné la quête.
D'accord.
T'en as un autre qui est le voyage le long de l'Anduin, qui a une difficulté de 4. Alors, assez longtemps, il y avait facile, moyen et difficile, donc 1, 4, 7. Après, bah maintenant, il y a des 5, ils ont un petit peu modéré, mais c'est bizarre cette. Tu vois, ils auraient pu mettre des étoiles en disant une étoile, deux étoiles, trois étoiles, cinq
Ouais.
étoiles. Bon, ils ont choisi ça. Ça permet d'avoir une.
Ils ont un algorithme savant qui leur permet de noter.
Ouais. Ils ont une échelle qui est comme ça. Alors. Dans ce scénario-là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tu as une phase 2. Donc là, c'est voyage le long de l'Anduin. Et tu as une phase 2 qui colle super bien au thème. C'est-à-dire que tu vas avoir une accumulation d'ennemis qui n'attaqueront pas, que tu ne pourras pas engager. Et tu vas avoir ta zone de cheminement qui va se remplir d'ennemis. Comme quand tu es en barque sur l'Anduin, tu
Ah
sais, tu les vois là-bas, tu vois les troupes, tu dis ouh, je vais débarquer, je vais m'en prendre plein la poire. Et c'est exactement ça.
ouais. Et oui, mais tu peux pas avancer ta quête non plus.
Si, si, il faut l'avancer très vite. En fait, c'est ça qui est aussi rigolo, c'est que t'as des fois, tu veux attaquer, tu veux arriver à la fin, quoi. Ton but, c'est de dire, je vais finir. Mais parfois, eh ben,
Faut faire
t'attends un
ménage.
peu. Tu
Ouais.
sais, tu t'équipes, tu dis, j'y vais pas tout de suite, parce que sinon, ça va mal se passer. Et là aussi, t'as un changement, t'as des choses qui sont différentes d'un scénario à l'autre et qui rendent les scénarios tous vraiment très très distincts les uns des autres, c'est que tu as vraiment une façon d'aborder les scénarios qui sont vraiment très différents l'un de l'autre. Alors par contre, petite chose rigolote, c'est que c'est le premier scénario où on rencontre les trolls des collines. Les trolls des collines, c'est les premiers gros monstres qu'on voit arriver. Alors eux, ils ont 9 points de
C'est à peu
vie.
près les trolls qui sont rencontrés par Bilbo, on va dire.
Ouais, c'est ça. Et puis ils ont 6 en attaque, sauf que tu les gères pas comme des trolls de Bilbo, quoi. Donc voilà. Enfin, c'est les premiers gros gros monstres que tu rencontres, et voilà.
Tu fais pas le fier.
Non, tu fais pas le fuir. Et le troisième scénario de la boîte de base, c'est l'évasion de Dol Guldur. C'est une difficulté 9. Pardon, c'est une difficulté 7, où on affronte les Nazgûl, enfin un Nazgûl. Et pourquoi est-ce que la difficulté est un petit peu pas, plus importante? C'est que dès le départ, il y a un héros qui va être emprisonné.
Oh.
Donc quand tu as deux ou trois héros que tu as fait, ou si tu. Si, enfin,
Si tu prends un, t'as
c'est.
perdu, quoi.
C'est handicap. Ben oui, non, parce que c'est un jeu coopératif, je te le rappelle. Mais c'est très handicapant. Enfin, de toute façon, c'est très handicapant d'avoir un héros en moins. Et même pendant la partie, si tu perds un héros, tu as des ressources en moins.
Ouais,
T'as peut-être une
donc t'as
couleur en
plus de mal à
moins,
jouer
et
tes cartes, ouais.
c'est ça c'est
Et c'est pour ça qu'il est à niveau 7.
ouais. Après, la carte 2 te permet de libérer, enfin le prisonnier libéré, et tu dois récupérer 3 objets. Alors c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que dans le paquet tu vas avoir des indices ou des objets. Là, pour le coup, pour Dol Guldur, c'est des objets. Et en 3, tu vas avoir un harcèlement, tu vas rencontrer le Nazgûl, et en plus il va y avoir un harcèlement dans le sens où tu vas prendre des cartes de ton deck et que tu vas te combattre des cartes de ton deck comme des jetons à Magic, en fait.
D'accord.
Donc là, il y a vraiment des facteurs qui font que c'est objectivement plus dur qu'une autre. Ça se fait quand même, hein, mais voilà.
Faut t'entraîner.
Donc ça, c'est la boîte de base. Il y a tout ce qu'il faut pour jouer. C'est juste chouette.
Et donc à partir de là, on peut décider si ça nous plaît et qu'on va aller plus loin, on passe avec les extensions, ou bien on arrête. Enfin,
C'est
ou
ça.
bien on se dit on se fait juste une partie de temps en temps et les trois campagnes peuvent suffire.
C'est ça. D'abord, enfin, je pense que si vous lancez pas dans le Seigneur des Anneaux, enfin dans un JCE, en vous disant je vais acheter tout, d'abord c'est pas trop possible, parce que j'ai déjà vu que les premières extensions sont
Rupture.
out of stock, en
Ouais,
rupture.
c'était ce que je voulais savoir, si on les trouvait encore ou
Non,
pas.
les premières extensions sont en rupture, donc ça va être compliqué d'avoir le cycle complet.
C'est un jeu de cartes évolutif, mais qu'il faut suivre au fil de l'eau, quoi.
Mais je pense que ça marche par cycle. Ça, c'est clairement ce que j'ai. Tu le vois tout de suite.
Ouais,
C'est-à-dire, quand
c'est-à-dire que
tu
tu suis un
commences à
cycle de
ouvrir
l'année, quoi.
le 6 mois,
Ouais, ou 6 mois.
Semestre.
Ouais, d'accord. Donc, en gros, c'est ça. Ouais. Tu te dis, ok, j'achète la boîte de base, et puis bah, je fais pas le premier cycle, tant pis, c'est trop tard, je vais démarrer maintenant Kavenin avec Shulkazadoum, et puis je commence à suivre
alors,
ce qui sort.
Alors, l'autre problème, c'est que bah, là, t'es obligé, enfin, là, c'est, tu vas être obligé d'avoir la boîte de base, plus l'extension Kazadoum, et en plus, tu vas acheter les petites extensions.
Ouais, donc, t'es déjà 60 euros de base, plus après les extensions.
Ouais. Ah, mais c'est. Enfin, on en a pas parlé jusqu'à présent, mais c'est une machine à fric, quoi. C'est.
Ouais,
c'est...
mais City passe du temps. Je veux dire, Magic aussi, on dit que c'est beaucoup de. C'est une machine à fric aussi. Mais par rapport au temps qu'on peut passer dessus, en général, on fait que ça, du coup, ça me choque pas forcément, moi. Il y a alors, plusieurs façons de modérer aussi sa façon ses dépenses.
Ouais, je pense que là, en l'occurrence, c'est un très beau jeu, c'est une très belle mécanique, et chaque extension va relancer la machine. C'est-à-dire qu'à chaque extension, tu vas ressortir ton jeu, tu vas
ouais.
le remettre, tu vas regarder,
donc,
tu vas reconstruire, t'en as pour ton argent. Sauf que, très vite, c'est du micro-paiement, c'est pas vieux, quoi. C'est... Enfin,
une fois par an, j'achète deux extensions de Dominion, c'est pareil, hein, c'est un petit, c'est pas
ouais,
le même budget.
15 x 6, 90.
Bah,
déjà
j'en suis déjà entre 60 et 70 euros de Dominion par an, tu vois.
Ouais, mais là, c'est 6 mois.
Ah, c'est 6 mois. Ah oui, non, je
donc,
peux
la
pas...
boîte de base, plus l'extension, plus les 6, c'est quand même un budget.
Ouais, mais tu fais pas... Tu es parti dans le cycle 2, là. On parle du cycle 1.
Alors, on va attaquer maintenant le premier cycle, et puis on en reparlera. Donc pour préparer ce dossier, j'avais deux choix en fait. C'était détailler toutes les cartes les unes après les autres. Ouais, ça aurait été long et fastidieux, autant pour moi que pour vous. Et puis j'ai pris mon parti en fait de partir des scénarios parce qu'en fait c'est ce qui est intéressant dans chaque extension.
Ils sont suffisamment variés.
Il y a
ouais.
Et puis il y a un scénario dans chaque extension. Donc après si le scénario vous botte déjà, bah, vous pouvez prendre ce critère-là pour choisir l'extension qui va vous plaire. Quoi.
Ouais, parce que il n'y a pas des extensions qui sont absolument à avoir pour construire des decks pour une autre extension, par exemple. Enfin, par rapport aux cartes que ça amène pour builder ton deck.
Non.
T'en es pas là. C'est vraiment le scénario, c'est la valeur ajoutée principale.
C'est-à-dire qu'avec chaque, tu vas avoir 60 cartes, tu vas avoir et des cartes de menace et des cartes attachement, héros, tout ça. T'as des héros tout le temps. Mais les héros, fin de compte. Alors, je le dirai tout à l'heure, mais il y a.
C'est vrai que tu nous as cité surtout les héros du jeu de base, qu'en fait.
Non, Bilbo, il est. Enfin, oui,
à
mais Legolas.
À part Bilbo, ouais. Mais sinon, ils sont suffisamment forts, ceux du jeu de base, c'est ça pour.
Ah ouais.
Tu ressors pas tant que
ouais,
ça.
Ouais, non, ça c'est. Je pense que globalement, ils ont fait un set. Et puis après, ils l'ont coupé en morceaux. Globalement, la plupart des cartes sont indépendantes du scénario. Après, t'as des alliés. Non, en fait, en conflit à Karok, tu vas avoir Beorn, en fait. Béorn et les champs d'abeilles, enfin c'est les Béornides, donc tu vas avoir des cartes en rapport avec le scénario. Par contre, tu vas avoir plein de cartes que tu vas pouvoir utiliser dans d'autres scénarios.
Ouais, du coup, j'arrive pas à savoir s'il faut acheter l'extension par rapport aux cartes parce que justement ça a été découpé un peu sans rapport.
Non, en fait, si tu veux, les cartes que tu vas trouver vont correspondre à l'extension. C'est-à-dire que tu vas pas avoir des super cartes
qui te manqueraient pour le reste, quoi.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
C'est ça. La première extension, c'est La Poursuite de Gollum. C'est une extension de difficulté 4. C'est le premier du cycle qui en compte 6, du cycle de Mirkwood. Et puis ben là, tu vas avoir des cartes indices et des cartes chasseurs du Mordor qui gagnent plus 2 en attaque et plus 2 en menace pour chaque carte indice en jeu. Forcément, il te faut des cartes indices. Parce que sinon, les joueurs qui n'ont pas trouvé d'indice ne peuvent pas engager des héros dans la troisième quête. Alors c'est un petit peu ballot de ne pas pouvoir te battre si t'as pas de... t'as la moitié de ton équipe qui est HS, ça marche pas. Et si aucun indice n'a été trouvé, en fait on revient à l'étape 2. On réinitialise le deck et on revient à l'étape 2. Donc voilà. Alors, on rush pas forcément vers la fin de l'aventure. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que t'as quand même un rythme et que... t'as toujours cette menace qui est les 50 points de menace. Si t'y arrives, t'as perdu la partie. Si t'as plus de cartes dans ton deck, ben tu fais 100. ça te pousse à vouloir finir quand même la quête. Mais par contre, bah, des fois, tu te dis, je vais quand même pas y aller, il faut que je trouve les indices, il faut que. Comme dans une vraie quête, quoi, tu
Donc
vois,
ça
c'est.
peut durer.
Non, ça peut pas durer, parce que de toute façon, ton niveau de menace, il va
Ah
augmenter.
ouais, ça
Donc
augmente.
forcément, t'as le tic-tac de l'horloge qui tourne, et c'est ça qui fait que ça peut pas s'éterniser.
Tu perds régulièrement? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est un jeu quand
Moi,
même
non.
où... Non, voilà, c'est la
Mais
question.
moi, je joue dans une configuration assez particulière. Et j'y viendrai tout à l'heure, en fait.
D'accord.
Je joue avec un tueur et en fait, je pense que ça marche bien parce qu'on joue avec, enfin, je joue avec quelqu'un qui a une vision du jeu qui est extraordinaire et ça marche, quoi.
Mais sinon, ça arriverait quand même que les joueurs perdent les parties, enfin, perdent
Ah oui,
les...
c'est tendu. C'est-à-dire, en général, on les gagne, mais ça nous arrive de perdre et souvent, on se dit, il y a toujours de la baston, quoi. Enfin, tu vois, tu dis jamais, non, c'est trop facile. Enfin, si, peut-être pour le premier, tu te balades un peu, mais sinon, après, c'est pas le cas, quoi. Il y a une vraie résistance,
Il
il
y
y
a
a un
un
vrai
challenge,
enjeu
quoi.
dans
Ouais,
la quête.
tant mieux.
Ouais, c'est clair. La deuxième extension, c'est Conflit au Karok. C'est une extension qui est de difficulté 7. Ça ajoute des cartes Terre Sauvage. T'as des cartes qui s'appellent Mise en Sac. Oh, c'est très drôle, les mises en sac. Tu l'attaches à un héros contrôlé par le premier joueur. Et puis, le héros attaché ne peut pas attaquer, ne peut pas défendre, ne peut pas s'engager dans une quête, déclencher son effet ou collecter des ressources. Donc tu vois déjà, cash. Bon bah ton héros il est complètement il est mort, on peut plus en rien en faire. C'est la rencontre avec les trolls. Alors les trolls, j'ai parlé tout à l'heure des trolls des collines. Bon bah là c'est Rupert, Maurice, Stuart et Louis. Ils sont un tout petit peu moins forts que les trolls des collines, mais ils sont quatre. Et en plus, quand Rupert attaque, mélangez dans le deck de rencontre tous les exemplaires de cartes mises à sac de la pile de défausse. Donc en fin de compte, c'est du lose to lose quoi.
Et ils sont forts en menace.
Alors ils ont 34 de menaces, donc c'est assez bas, puisqu'en général tu vas commencer autour des entre 28 et 32 quoi.
Ouais, c'est ça.
Donc 34, tu vas les rencontrer assez vite. Ils sont très résistants, ils ont chacun leur particularité. Donc par exemple, Louis, quand cet ennemi attaque. Tant que Louis est engagé au combat avec un joueur, tous les trolls gagnent. C'est tous les trolls et pas que lui. Forcé, quand cet ennemi attaque, le joueur de défense doit augmenter son niveau de menace de 3. C'est-à-dire
Ouais.
que
Frère, dans du Magic, quand t'as tous les machins.
Ouais, c'est ça. Tous les trolls gagnent plus 1 en attaque, tous les trolls gagnent plus 1 en
Donc, s'il y a les
défense.
quatre en jeu,
Et bah, t'es
c'est
mal.
perdu, non?
Non, 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 parce qu'après.
Non, il y a toujours.
Donc tu rencontres les trolls. T'as les mises à sac, mais tu as un allié, Grimbeorn l'ancien. Et puis tu as les terres sauvages. Et en fait, quand vous voyagez vers le pâturage des abeilles, cherchez dans le deck de rencontre Grimbeorn l'ancien. Donc ça va te permettre, en visitant ce lieu, de rencontrer Grimbeorn. Et Grimbeorn va te t'aider. En fait, Grimbeorn l'ancien n'est pas incliné pour défendre contre les trolls. Il a 3 en défense, il a 10 de vie. Et en fait, il est taillé pour répondre à la menace troll.
Donc c'est un lieu que tu vas forcément visiter. On parlait tout à l'heure que les
Bah,
lieux des fois vont te ralentir un petit peu dans ta quête, mais celui-là,
ouais, tout à
t'as
fait.
tout à fait intérêt à
Tout
faire
à
des
fait.
tours.
Alors, cette fois-ci, il y a 2 cartes seulement. Une pour la préparation de la quête, et puis une pour l'attaque des trolls. Voilà, c'est simple. Et tu vois, là encore, on a beaucoup échangé sur la difficulté de faire la part des choses entre la technique et la thématique. Moi, personnellement, j'y vois un côté thématique important. Et ça aide. C'est-à-dire que tu dis, bah, c'est bon, je vais visiter ce lieu-là, je vais rencontrer Grimbeorn, il va m'aider à me défendre contre les trolls. Tu vois, ça fait partie de l'aventure que tu vis, quoi. Donc ça, c'était le conflit à Karok. C'est un peu plus compliqué à cause des trolls. Troisième extension du cycle, le voyage à Rosgobel, difficulté 6. Il y a trois quêtes, et dans la première carte de quête, on rencontre un aigle qui s'appelle Wiliador. Donc Wiliador, c'est un allié. Enfin non, c'est un objectif, mais bon, il peut nous servir. Il a un en volonté, un en attaque, un en défense, et puis surtout, il a 20 points de vie. Mais
20 points de vie.
à chaque tour, on va lui infliger 2 points de dégâts. Et l'idée, c'est qu'il faut pas qu'il meure.
Ah oui, quand même.
Non, mais c'est ça. C'est en
Donc
fait
t'as des
le
tours.
challenge, c'est qu'il faut pas qu'il meure. Donc en fin de compte, il y a un système qui est bizarre parce qu'en fait tu peux blesser l'aigle pour anticiper les rencontres, c'est-à-dire que tu vas pouvoir, en blessant Will'Yador, regarder les cartes que tu vas rencontrer, que tu vas devoir subir. Et tu peux soigner l'aigle, mais une fois que t'as soigné l'aigle avec la sphère verte, bah, tu vas défausser ta carte. C'est-à-dire que tu vas l'acheter, tu vas dire non, c'est bon, une fois ça suffit. Et l'idée, c'est qu'à la troisième carte, tu vas devoir soigner complètement l'aigle. Donc il arrive, il se prend des dégâts tout le temps. Tu vas pouvoir t'en servir, l'amener jusqu'au bout pour regarder un petit peu ce qui va arriver et gérer un petit peu la difficulté. Mais au final, tu seras obligé de voir le soigner. Et pour le soigner, il faut que tu trouves ces Altéas.
Mais ça se fait.
Ces Altéas.
Oui.
Ces Altéas. Je vais y arriver. Oui, ça se fait. Mais c'est une difficulté, si. C'est pas facile, tu vois. C'est...
Ah oui, non, mais...
Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que t'as plus de héros ou parce que t'as des trolls. Là, c'est... Tu vois, c'est une autre forme de difficulté. La quatrième extension, c'est les collines des Minuits. Difficulté 4, donc c'est un petit peu plus facile. Et là, on change de catégorie parce qu'il y a énormément de lieux. Et une seule carte de quête, ben, dont le but est de visiter les mille muiles. Et ben, tu vas dire, ouais, c'est facile, on visite les mille muiles, puis c'est fini.
C'est sympa, c'est quoi ? C'est les vacances, en fait.
Ouais, c'est ça. Mais difficulté 4, hein, on t'a prévenu.
Ah ouais, tu pars, c'est le tourisme, quoi. Faut se reposer un peu après avoir tué les trolls et tout.
Agence de tourisme, c'est... visiter les terres du milieu.
Voilà.
Alors pour le coup, je t'ai pas dit la deuxième condition, c'est obtenir 20 points de victoire. Tu vas me dire, qu'est-ce que c'est ces points de victoire? Tu m'en as pas parlé.
Oui, d'où ça sort?
Eh bien, ça sort que... Attends, je vais ouvrir au chat.
Oui.
Donc les points de victoire, tu vas avoir certaines cartes, certains lieux ou certaines créatures qui vont te rapporter des points de victoire. Par exemple, Emine Mille te rapporte 5 points de victoire, la Grande Corniche te rapporte 2 points de victoire.
Ah, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de lieux, il faut être obligé de les visiter.
Oui, oui, et puis plus ou moins dur, par exemple, Amon N, en fait, il a un X de menace qui est le nombre de joueurs multiplié par 2. Donc, en fait, c'est là qu'il y a quand même un équilibrage. Mm. On est à la quatrième extension, et on commence à avoir des choses qui font que quand tu as plus de joueurs, bah, t'as quand même plus de difficultés à avancer, quoi. Et c'est surtout tant que Amon N est le lieu actif, donc tant que la compagnie est en train de progresser dessus, ben, les joueurs ne peuvent pas jouer d'événements. Donc c'est un gros handicap et voilà. Donc,
il y en a plusieurs de lieux comme ça, non, qui interdisent des événements, il me semble.
Oh, il y a plein de trucs. Tant que la Grande Corniche est un lieu actif, chaque lieu dans la zone de cheminement gagne plus en menace, par exemple.
Ouais.
Donc voilà. Et puis, bah tu as des choses comme le guet glissant, retirer un marqueur de progression de chaque lieu en jeu, ensuite défausser le premier carte du deck de chaque joueur pour chaque marqueur de progression retiré pour cet effet, c'est la double peine, tiens, pan. Non seulement je te retire des... T'as progressé pour rien, t'as fait la quête pour rien, mais en plus je vais te retirer des ressources.
Ça prendra.
Voilà. Donc, avoir visité les lieux et mille, puis obtenir 20 victoires. C'est là que la construction de deck, elle prend tout son sens, parce que tu vas pas mettre trop de combattants, parce que l'idée, c'est pas de taper du troll, c'est d'avoir vraiment de la volonté et d'avancer dans la quête, parce que avancer dans la quête, c'est aussi découvrir, enfin visiter les lieux.
Et il n'y a jamais de deck suggéré. Je veux dire, quand t'achètes l'extension, ils disent pas on peut vous proposer par exemple tel et tel deck.
Non.
C'est vraiment à toi de faire, quoi.
Oui, oui, où tu vas.
C'est la dimension. Je veux dire, c'est normal, c'est la partie intéressante du jeu, mais je peux comprendre que certains joueurs aient envie de vivre l'aventure pour l'aventure, mais pas pour la partie technique de la construction du deck.
Ça pèse pas tant que ça, en fait.
Ouais, c'est ça, c'est ce que tu disais, tu builds vite et.
C'est pas un truc qui est forcément très. Non, non, ça va, quoi.
D'accord.
C'est pas comme un Magic où Magic t'es obligé d'avoir ton deck, t'es obligé de connaître le metagame, t'es obligé de ça.
Ouais, c'est ça.
Là, bah, si t'as pas envie alors, c'est un peu le problème que je ne voulais pas rencontrer avec le Trône de Fer, c'est-à-dire que j'avais pas envie de construire deux decks. C'est-à-dire, je ne voulais pas qu'on soit mon deck et le deck adverse, alors que là, tu peux faire. Tu dis, bah voilà, je vais couper en deux, je vais faire une équipe bleu-verte et une équipe rouge-mauve. Ouais. Et en fin de compte, ça se passe beaucoup plus facilement, quoi.
D'accord.
Voilà. La cinquième extension, c'est les Marais des Morts. Alors, je ne sais pas si tu te souviens.
Dans le film, ouais, on le voit film, bien. Bah, ils sont dans l'eau, là.
Ouais, ouais. Ouais, bah t'as un graphisme qui ressemble, t'as une carte qui s'appelle... Non, 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 non.
C'est pour voir l'illustration.
Ouais, mais je la lis. qui s'appelle Les Lueurs des Morts. Chaque joueur doit faire un test d'évasion. Alors, ça, c'est... Alors, les tests d'évasion. En fait, on court après Gollum. Tout le cycle, c'est je cours après Gollum, je veux attraper Gollum. L'histoire se passe entre le moment où Bilbo part dans son aventure, enfin revient de son aventure et où Frodon part. Donc pendant ce temps, Gollum, lui, c'est le moment où il se rend en Mordor et il donne des informations sur Frodon Sacquet, sur Bilbo Sacquet, pardon. Et là, bah, tu suis Gollum. Il faut que tu attrapes Gollum et tu vois, t'es vraiment dans, t'es quand même, t'es pas dans le feu de l'action de l'histoire
On est quand même
de
dedans.
l'anneau, mais c'est toujours en background. T'as les mêmes personnages, t'as les mêmes lieux, t'as tout ça. Et là, il y a des tests d'évasion, c'est-à-dire que tu suis Gollum et Gollum va c'est l'anguille quoi. Il va te filer entre les doigts. Donc, on retrouve Gollum dans les marais. Lui, il connaît le chemin. Et d'ailleurs, il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. Je tiens à le signaler. Deux cartes de quête seulement. Toutes les cartes portent évasion. Et au fur et à mesure qu'on avance dans l'aventure, on doit faire des tests d'évasion. Et si on rate ces tests d'évasion, c'est
On
des
tombe
tests
dans
qu'on
les
fait avec la
marais.
volonté. Non, non, non. En fait, Gollum s'échappe.
Oh, et c'est à
C'est-à-dire,
toi? Ou
pardon?
tu peux le retrouver?
Tu vas le retrouver, mais tu vas le mélanger avec le deck
Ah, c'est
de
pas bon.
rencontre. Et oui, c'est ballot parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas prendre du temps pour le retrouver. Donc tu fais des tests d'évasion, tu le perds de vue, tu le récupères, et puis après, tu te retrouves à 50 points de menace et t'es mort.
Bon, mais l'avantage par contre, c'est que c'est pas avec du hasard, le test d'évasion.
Si, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que tu engages un certain, tu mises en fait de la volonté pour retrouver le Gollum. Mais ça, ou alors, enfin, c'est une quête. De toute façon, t'as que deux cartes, donc t'as pas non plus énormément besoin de mettre de la volonté sur les cartes. Donc
Ouais,
voilà.
donc c'est un art maîtrisé, je veux dire, par rapport à un simple jet de dés.
C'est tout est un hasard maîtrisé. Il y a beaucoup de hasard dans ce jeu, mais
C'est un jeu de cartes, c'est normal.
voilà. Et ça fait partie de tout ça. Dernière extension, l'extension A7. Donc on a retrouvé Gollum et on doit le ramener. Donc bon, déjà il y a un scénario avec quatre cartes quête. Déjà un héros doit garder Gollum, ça bon voilà. En carte 2, il faut pas faire d'échec de quête parce que sinon on perd Gollum et ça c'est la merde. Le joueur qui garde Gollum ne peut pas engager de personnage dans la quête. Donc ça veut dire que c'est super contraignant. C'est pour ça que la difficulté de l'E7, c'est que c'est un joueur qui joue pas. Et en carte 3, le joueur qui garde Gollum ne peut pas jouer de carte de sa main. Donc là, voilà, très bien. Et la dernière. Non, non, mais c'est de mal en pis en fait. Et en 4, tous les ennemis en jeu engagent le joueur gardant Gollum. Donc c'est juste de la folie. Et en même
C'est à
temps.
peu près la dernière extension du cycle, hein, ou pas loin,
Ouais, c'est
donc
ça,
c'est
non,
pour ça que tu
c'est
t'es
la dernière.
rodé, tu
Ouais,
peux
c'est ça.
gérer, y a plus ça qui te retient.
Ouais, c'est ça. Donc Gollum, c'est les points de dégâts des attaques sans défense contre vous doivent être assignés à Gollum. Si Gollum est détruit, vous perdez la partie.
Oh.
Alors ça m'amène à parler d'un point de règle que je n'ai pas encore dont je n'ai pas encore parlé. À tout moment, tu peux dire je ne défends pas. C'est-à-dire je n'engage pas d'alliés ou de héros pour défendre une créature qui attaque.
Donc t'en prends plein la tronche.
Et en fait, les points de dégâts de cette créature vont être automatiquement assignés à un héros. On oublie l'armure et puis on dit bah voilà, toi voilà, il fait 3 points, t'as 3 points. Sauf que il y a un système qui fait que tu ne connais pas l'attaque nette d'une créature. C'est-à-dire que tu vas retourner une carte et tu vas pouvoir avoir un
Oui, il
plus
y
1
a un
quelque
effet
chose. Voilà.
supplémentaire.
Donc des fois tu dis bon bah de toute façon non je ne veux pas je ne veux pas défendre parce que ça me permet d'attaquer ça me permet de tuer cette créature qui m'encombre et des fois tu le regrettes parce que tu perds un personnage. Donc là celle-là c'est chaud quoi. T'as une carte qui s'appelle Provision gâchée, une fois révélée défausser 10 premières cartes du deck du joueur gardant Gollum.
Ah, quand même.
Voilà.
C'est un deck de combien de cartes déjà que tu fais à peu près?
Une cinquantaine.
Cinquantaine.
Infliger 4 points de dégâts à héros contrôlés par joueur gardant Gollum. 4 points, 4 points, c'est beaucoup en fait. En général, tes héros, ils ont 2, 3, 2, 3 points. Après, t'as les nains qui ont jusqu'à 5 points, mais c'est beaucoup. Donc c'est la merde. Et puis, t'as aussi Atherkop. Au début de la phase de rencontre, Atherkop engage automatiquement en combat le joueur gardant Gollum. Enfin, c'est une calamité et c'est juste improbable. Alors, c'est coopératif. Si vous êtes un auditeur assidu de Proxy Jeux et que vous avez écouté le dossier sur les jeux coopératifs, vous avez certainement entendu cette anecdote de la partie du Seigneur des Anneaux qui s'est très très mal finie pour moi.
Seigneur des Anneaux, jeu coop, pas le...
Ouais, le jeu coop, pas le jeu de plateau de Reinhard Knizia. Où les joueurs qui étaient autour de la table n'ont pas joué, où il y avait un leader, et ce gars-là a dit « Bah toi tu fais ça, le meilleur coup c'est ça ». Il faut faire ça. Et la dernière personne, le dernier joueur, lui a dit, bon ben voilà, la seule chose que t'as à faire, le mieux, tu te sacrifies. Donc le pauvre gars n'avait pas joué.
Ça fait un peu loup-garou.
Et on lui dit, ben voilà, tu vas te sacrifier parce que c'est le meilleur coup, et puis c'est un jeu coopératif, donc tu vas perdre, quoi.
Merci d'être venu pour la soirée.
C'est ça. Et ben là, ce qu'il y a de rigolo, c'est que je me suis promis de jamais plus rejouer un jeu coopératif avec cette personne-là. Et en fait, c'est avec cette personne-là que je joue au JCE du Seigneur des Anneaux. Alors pourquoi ? Parce que on a chacun nos cartes.
Personne d'autre, c'est tout, faut le dire.
Non. C'est que là où je veux en venir, c'est que t'as pas d'effet. T'as pas d'effet leader, quoi. Tu ne peux pas leader. Tu ne peux pas dire, tu fais ça. Merci. Parce que t'as 5, 6, 7 cartes en main et que le gars n'a aucune idée de ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Il peut te suggérer en disant oui, bah là, peut-être que tu peux aller plutôt en quête. Et ça fait partie du jeu. Tu peux te dire, bah, ouais, non, moi, je vais faire ça. Je vais plutôt défendre. Toi, tu vas plutôt aller en quête. Il y a un premier joueur, un joueur actif, qui va donner son avis. Après, il y a quand même un système où tu.
Les joueurs échangent quand même un peu.
Pardon ?
Il y a quand même un échange entre
les
joueurs.
Tout à fait. Oui, tout à fait. Bah, tu demandes, tu mets combien en volonté ? Parce que moi, je vais mettre 5. Ah, mais tu mets 7. On aura plus 4 ou plus 5. Ouais, bah, c'est bien. C'est ce genre d'échange que tu vas mettre. Et puis après, tu lui dis, oui, ben bah, écoute, cette créature-là, je peux la prendre parce que je vais pouvoir la gérer.
Mais ça s'arrête là.
Mais il ne va pas pouvoir dire, maintenant, bah, tu la prends. Mais non, je peux pas la prendre. Il ne sait pas que c'est le meilleur coup. Mm-hmm. Donc c'est extraordinaire parce que t'as pas cet effet leader. Et c'est vraiment coopératif, tu dois vraiment jouer avec l'autre, tu dois vraiment réfléchir sur ça va être mon tour, je vais avoir tant de points de menace, je vais me prendre telle créature, je vais avoir tel héros pour gérer, après je vais avoir tel héros pour aller en quête. Et c'est le côté technique que peut-être t'as regretté toi.
Moi personnellement, ça m'a pas gêné du tout. Mais c'est les personnes avec qui j'ai joué, c'est madame notamment, qui ça a rebuté. Parce qu'il faut quand même bien maîtriser cette partie, qui est bien expliquée dans la live, qui n'est pas complexe, je veux dire, par rapport à d'autres jeux. Enfin, j'ai pas trouvé que c'était un frein du tout. Mais malheureusement, pour d'autres personnes, ça allait quand même, quoi.
Donc moi, globalement, une fois passé les deux premiers scénarios, tu intègres la façon de jouer. Tu as toujours cette contrainte de lire beaucoup, relire tes cartes. Pour savoir, il faut vraiment toujours garder en tête, mais c'est un jeu de cartes, hein, de toute façon, ça peut être Asphalt Galaxy, ça peut être pour tout le reste, ou Gozu. Il faut savoir ce que font tes cartes, parce que sinon, t'es mort, quoi. Mais ça, c'est normal, et c'est un jeu qui est pas si facile que ça, parce que justement, t'as beaucoup de cartes, beaucoup de possibilités, en fin de compte. Mais par contre, je pense que tu l'as vu avec le premier cycle, t'as des scénarios qui sont très différents, t'as des situations qui sont très différentes et t'as des façons de gérer la quête qui sont aussi très différentes avec des rythmes différents ou avec des équipes différentes. Des fois tu vas attendre, des fois tu vas rusher, des fois tu vas plutôt te mettre en volonté pour visiter des lieux. Enfin, tu vois, c'est vraiment, pour le coup, je ne pense pas avoir deux scénarios qui se ressemblent. C'est-à-dire, t'as pas deux scénarios où tu te dis, putain, mais ça, je l'ai déjà fait, c'est l'autre.
Sur une
c'est plutôt
dizaine,
bon
ouais,
signe.
ça.
C'est plutôt bon
Au
signe.
bout de 3-4 cycles, ce sera peut-être plus différent, mais...
Alors ça c'est le premier cycle. Et on peut intégrer l'extension à la demande qui s'appelle Rassemblement House Gilead dans ce premier cycle, bien qu'il soit un petit peu décorrélé. C'est un peu différent parce qu'en fait c'est un peu une arnaque. C'est 45 cartes seulement, mais au même prix, donc à 15 euros, qui tu peux l'acheter uniquement sur le site de Edge. Et c'est un scénario qui a été créé pour la Gen Con 2011 et qui est en exclusivité sur le site de Edge Entertainment. En l'occurrence, là, t'es plus en difficulté 7, t'es en difficulté 9. Tu n'as dans ton paquet que le scénario et des menaces. Tu n'as pas de héros, tu n'as pas de...
C'est pour ça qu'il n'y a que 45 cartes et que
Ouais,
c'était à
c'est
la...
ça.
Mais c'est parce que c'était à Gen Con en fait, les joueurs venaient avec leur
Ben, je sais pas, enfin c'est...
Winter
Mais
Deck.
voilà, c'est un petit peu différent, il faut pas s'attendre à avoir un héros surpuissant, où là c'est vraiment une aventure, et une aventure qui est un peu plus compliquée. Donc une quête avec quatre cartes. La première carte de quête, c'est la rencontre avec des créatures éclaireurs, des loups, des orientaux, des bébêtes comme ça. Et ensuite, la deuxième carte, c'est un passage à travers les ruines de Sgiliath. Et en fait, c'est une fuite de Sgiliath vers Minas Tirith, en fait. Donc après, la troisième carte, c'est la traversée de l'Anduin. Et là, c'est un petit peu dramatique parce que pour engager des personnages dans la quête, il faut d'abord se défausser d'un héros ou d'un rôdeur. Le rôdeur, c'est un objectif que tu vas rallier, c'est un allié que tu vas rallier en cours de route. Et puis, la quatrième carte, c'est aussi le drame parce que c'est la fuite vers Minas Tirith. Il faut 15 points, donc comme tout à l'heure avec Emile Muil. Mais en plus, tu vas te taper le roi sorcier. Alors, le roi sorcier, il a 600 menaces, 600 attaques, 600 défenses et 11 points de dégâts. Donc voilà,
C'est bien.
c'est le capitaine Nazgûl. Voilà. On peut pas
C'est
lui attacher quoi que ce soit.
ce qui fait un peu sa force, enfin ce qui donne le niveau 9 à la campagne.
Ah oui, mais c'est clair. C'est clair.
Faut pas arriver étant trop blessé à être devant lui, quoi.
Non.
Et même en étant en pleine forme, c'est dur.
Ouais, parce qu'en fait, après la résolution de son attaque, envoyer le roi sorcier dans la zone de cheminement, sauf si le joueur en défense augmente de 3 son niveau de menace. Donc il faut le tuer tout de suite, ou alors, il revient dans la zone de cheminement,
Ouais, donc ça t'augmente encore tes menaces et machin.
et c'est ingérable. Donc voilà, c'est très dur. Alors je l'ai pas joué celle-là. Je devrais la jouer demain soir. Je la garde pour la bonne bouche, si tu veux. Parce que là, tu te dis, il y a un autre niveau. C'est-à-dire que tu vois vraiment pourquoi c'est 9 et que les autres sont toujours plus ou moins à 7. C'est que vraiment, c'est un niveau de difficulté qui est supérieur. Donc après, c'est une extension sur demande. Donc on l'a dit dans le podcast actu numéro 26. Il y a eu une rupture de stock et maintenant c'est revenu en stock. Donc ça doit pas vraiment. Ils font pas ton exemplaire un peu comme Spreadshirt avec les t-shirts.
Ouais.
C'est ton exemplaire qui est fait à la demande. Là, ils doivent en faire, tu sais
Ils
pas,
font
1000,
comme une petite
2000,
série,
3000.
ouais.
Mais ils en font une petite série. Alors, la qualité est bizarre, en fait. C'est pas celle qu'on a l'habitude de voir.
C'est pas imprimé par le même imprimeur.
Non, c'est pas la même, c'est pas la même, le même, la même méthode d'impression, en fait. Et moi, je ne vois pas la différence avec de qualité enfin de carton, de
Parce que t'as les
cartes.
protège-cartes.
Parce que j'ai des protège-cartes. J'ai tout mis en protège-cartes, dans des protège-cartes à 80 centimes les 100. Ça va très bien. Deux avantages. D'abord, ça protège des cartes. En plus, ça permet de les brasser plus facilement. Et puis voilà. Le rassemblement aux Gilead ne fait pas vraiment partie, ne fait pas d'ailleurs partie du skin de Mirkwood. Je vais y arriver. C'est un standalone et c'est un peu particulier. C'est un bonus, quoi. C'est un bonus.
Oui, c'est pour ça que c'est en impression à demande seulement. Ils se sont dit
Ouais,
qu'il
c'est
n'y avait pas
ça.
assez de marché pour le
Tout
sortir.
à fait.
Et puis en plus, c'est hors cycle, donc ils n'avaient pas comment le mettre.
Et il n'y a pas longtemps, Khazad-dûm.
Ah, quand même.
Khazad-dûm qui a appelé une extension de luxe. Alors là, pour le coup, la boîte est là. C'est un format de boîte. Je sais pas comment tu. C'est une boîte carrée qui
Ouais,
fait.
genre les boîtes Kauna, etc. Là, les jeux pour deux.
Ouais, tout à fait.
Les vieux jeux Cosmos.
Mais. Ah bon? Ça tombe. C'était dedans et...
Bah c'est bon, ça tombera pas plus. Voilà, c'est tombé. 165 cartes et un livret de règles.
C'est ça. C'est ça et trois aventures. Donc là, on est plus dans la forêt, on est plus...
Et ça fait partie du cycle ?
Ah non. En fait, c'est entre les deux.
C'est introduit le cycle 2, en fait.
C'est ça. C'est tout à fait ça.
Et t'en as besoin pour le cycle 2.
Et t'en as besoin. C'est-à-dire que pour le cycle 1, t'as besoin que de la boîte de base plus une extension. C'est là que je réponds clairement à ta question tout à l'heure. C'est que t'as pas besoin d'avoir une extension pour jouer une autre extension. Boîte de base, extension. Là, en l'occurrence, t'es obligé d'avoir la boîte de base plus KZ Doom. Et après, tu vas rajouter l'extension. Parce que quand tu fais un scénario, tu vas avoir, pour construire ton scénario, tu vas construire un deck de menaces avec des sets de cartes, en prenant deux sets de cartes qui sont dans la boîte de base, plus le set que tu vas trouver spécifiquement dans l'extension.
D'accord.
Donc en fait, tu vas toujours avoir trois sets, et puis tu vas pouvoir rouler rien qu'avec une extension, quelle qu'elle soit, plus la boîte de base. Et là, KZ Doom, ça change un peu la donne, parce que ça va, pour jouer à tout le deuxième cycle, le cycle Kavenin, t'es obligé d'avoir la boîte de base et l'extension de luxe. Donc voilà. Donc,
ça paraît un peu logique quand même. Enfin, je veux dire, s'il veut aller un petit peu plus loin dans l'histoire, ça paraît aussi logique d'avoir. C'est juste dommage pour les nouveaux entrants. Il faudrait qu'il y ait une boîte de base mise à jour.
Ouais, c'est ça. Mais c'est toujours le même
problème.
C'est le même
problème. Hein, ouais, c'est entre racheter une grosse boîte ou bien racheter une petite boîte. Ouais.
Alors, très rapidement, il y a trois scénarios dedans. Il y a un scénario qui est plus facile, hein, qui est un peu au-dessus de la moyenne et un qui est un peu plus difficile. Donc, le premier scénario. C'est dans le gouffre noir. Donc l'idée, c'est que les aventuriers vont rentrer dans la Moria pour rencontrer Balin. Et en fin de compte, ils vont se rendre compte que Balin a été tué. Et ils vont s'échapper de la Moria. Donc le premier scénario, c'est dans le gouffre noir. C'est l'entrée dans la Moria. La première carte, c'est l'arrivée au pont de Khazad Dûm en passant par la porte de l'Est et la première salle. Donc tu vas avoir un lieu qui sera la porte de l'Est, un lieu qui sera la première salle, un lieu qui sera le pont de KZ Doom, donc il va falloir les passer. La deuxième carte, c'est la rencontre avec une patrouille orque. Et puis la troisième carte, les aventuriers arrivent dans la salle des archives, et à ce moment-là, la difficulté, c'est qu'ils ne peuvent pas collecter de ressources. Donc t'es vraiment, tu as vraiment ce passage dans la Moria, cette découverte en fait de la Moria. Bon, après, t'as des choses un peu rigolotes. Par exemple, t'as les traces de combat. Je vous
l'illustration est merveilleuse.
Ouais, je vous laisse imaginer.
On voit qu'il y a eu quelques... Ça s'est battu.
Ouais.
Mais il y a longtemps.
Oui, parce que c'est plutôt tendance squelette. Ensuite, c'est le septième niveau. Le septième niveau, c'est le deuxième scénario de KZ Doom. Les aventuriers tentent de récupérer un grimoire, le livre de Mazarbul. Ils apprennent la tragédie qui s'est déroulée dans la profondeur de la Moria. Deux cartes seulement, une pour dans laquelle le livre handicape un joueur qui ne peut pas attaquer ou s'engager dans une quête. Et voilà, donc c'est assez facile. Toujours, on est vraiment dans la thématique de déroulement d'une aventure. Et là, je ne sais pas s'il y a des règles de campagne, mais ça pourrait très bien se jouer en campagne avec un scénario un petit peu plus en retrait pour faire souffler un petit peu les aventuriers avant fuir la Moria. Qui a une difficulté de 7, et là qui est encore un peu différente, puisque tu as 8 cartes quêtes, tu n'en as pas 2, 3, 4, tu en as 8. Tu as une carte qui est le 7ème niveau. Tu as une carte Fur la Moria de mise en place, où tu vas en fait récupérer une carte qui s'appelle La Peur sans nom. Et La Peur sans nom, c'est un peu le Nazgûl. Il a juste 27 points de vie et il a juste X en menace, X en attaque et X en défense, X correspondant au total de points de victoire possédés par les joueurs.
Ah oui, quand même.
Et puis tu as une carte qui est au-delà des pouvoirs, qui dit « Le dernier joueur inflige des dégâts égaux à la valeur d'attaque de la peur sans nom à un héros qu'il contrôle. » Donc, tu sens bien que le... j'ai dit quoi ? J'ai dit Nazgûl ?
Ouais, c'est un Balrog.
C'est Balrog.
Les gens ont rectifié de même.
Ouais. Et tu sens bien là que Balrog, en fait, you shall not pass, mais bon.
Gandalf
il passe. Donc toi, tu passes.
Et donc, c'est rigolo parce que donc on va avoir une première carte et puis après, on va mélanger les sept cartes 2. Et puis, en fonction de ce qui de là où on va aller, vers le bas, vers le haut, alors il y a des salles de conseillers, des passagers 3, des tours. Et ben, on va faire le. Tu vois, c'est la fuite de la Moria. Tu vas te retrouver dans un couloir, tu vas te retrouver dans une salle fermée, tu vas te retrouver dans là où tu veux pas. Et puis, à un moment donné, tu vas te retrouver à l'air libre.
Mais et là, c'est là où tu voulais.
Et c'est là où tu voulais. Donc voilà, ça c'est le troisième, c'est le plus compliqué. Et après, le cycle Cavenin commence vraiment avec la porte Rubicorne, difficulté de 6. Et puis une autre extension qui s'appelle la Route de Foncombe, difficulté de 4. Que je n'ai pas acheté parce que je me suis dit, je n'achèterai pas, je finirai le premier cycle et après je ne continuerai pas sur l'autre cycle.
T'as quand même craqué pour Khazad Dûm.
Oui, j'ai craqué pour Khazad Dûm parce que je voulais voir ce que ça donnait. J'aime bien les nains, moi.
Donc tu vas faire Cavenin.
Bah en fait, en fait c'est fou parce que
rendez-vous dans 6 mois les auditeurs.
Ouais c'est ça. En fait j'ai commencé à travailler sur le truc et puis je me suis dit c'est quand même super bien et puis j'ai vraiment envie d'y jouer et puis voilà quoi.
Mais est-ce que tu reviens des fois aux quêtes que t'as joué il y a un petit moment?
Non.
Non en fait c'est ça.
Tu
le vis vraiment au fur et à mesure qu'il vient, tu ressors ta boîte machin.
Ouais c'est ça.
En fait tu reviens pas sur les quêtes que t'as passées.
Non mais il y a un problème aussi c'est pareil. Je peux dire c'est un problème aussi c'est que
tu joues à plein de trucs.
C'est super diversifié. C'est-à-dire que, tu l'as vu, les scénarios sont très divers. Les héros sont différents. Avec les sphères, il y a vraiment des choses très marquées et c'est vraiment très intéressant. Le problème, c'est qu'un scénario, quand tu l'as fait une fois, deux fois, trois fois, bah, tu le fais plus.
Ouais, mais c'est pas... Enfin, ça fait partie du jeu, c'est comme tout jeu.
Oui.
Il y a un jeu où, normalement, tu joues plus, quoi. Enfin, à part les gros, gros classiques qui...
Oui, mais c'est ce qui est rigolo. En fait, c'est tout l'intérêt, en fait. Le scénario et tout l'intérêt de la rejouabilité du jeu. C'est-à-dire que ça va te donner envie de rejouer au jeu. Mais par contre, le scénario en lui-même ne va pas être très... très... En conclusion ?
Oui. Conclusion pour... ouais, vas-y.
Bah, dis-moi.
Je te poserai... Non, vas-y, fais ta conclusion. Puis si j'ai des questions, j'irai. Ouais.
Les plus. Le matériel est toute beauté. C'est vraiment super joli. Il y a un graphisme qui permet justement l'implication dans les quêtes, de vivre dans l'aventure. Et puis c'est un graphisme qu'on connaît. Maintenant, il y a des codes, les terres du milieu qu'on connaît. Et ça répond très bien à ça.
Donc immersif.
Très immersif. La boîte de base suffit à elle-même. Et ça, c'est super sympa. C'est-à-dire que tu veux faire un cadeau, tu n'as pas envie de... Tu peux offrir le logiciel...
Ouais, c'est un peu comme les gens qui offraient aux gens un téléphone avec un forfait. Et alors, ils ont payé juste le téléphone, puis c'était aux gens qui payaient le forfait.
Oui, tout à fait.
Ah c'est bien, c'est super, bravo. Mais tiens, je t'ai offert un forfait chez Edge.
C'est ça. Non, mais j'ai pas de part, moi. Je devrais acheter... Si ils se mettent en bourse, j'achèterai des actions à Edge, mais là, non. C'est un des meilleurs jeux coopératifs existants. C'est peut-être le meilleur jeu coopératif pur existant, parce que Battlestar Galactica, c'est pas du coopératif pur, puisqu'il y a des silos. T'as des vrais choix, t'as pas de leader, t'as des cartes cachées, des cartes inconnues, t'as vraiment de l'inconnu inconnu, et donc ça marche. Parce que t'as souvent des cartes inconnues, comme dans les jeux de table ronde, est-ce que t'as une carte qui est forte, mais pas trop forte, mais pas moyenne? As-tu vu un 4? Bon, bah voilà. Là, tu peux pas dire ce que t'as, donc ça marche super bien. C'est très immersif, mais ça on l'a dit. C'est coopératif, mais ça on l'a dit aussi. mais non. En fait, j'aurais dû dire ça d'abord. C'est-à-dire, c'est coopératif. C'est aussi un point positif, c'est que je ne jouerais pas un jeu de cartes évolutives si c'était pas un coopératif. Je voulais jouer au Trône de Fer, je me suis renseigné, j'ai dit non, c'est pas coopératif. Là, oui. Et puis, les mécaniques sont super intéressantes, ça marche bien, t'as beaucoup de choix, t'es obligé de communiquer, et c'est juste très bien fait. Les extensions prolongent énormément la durée de la vie, et puis les scénarios sont très, très différents les uns des autres.
Et alors justement, qu'est-ce que tu conseillerais comme scénario? Enfin, est-ce que t'as un
acte à préférer? Boîte de base.
Ouais, je veux dire... Quelqu'un qui a déjà juste la boîte de base. Ouais. On peut peut-être lui dire d'aller vers Khazad Dûm, le cycle 2.
Éviter peut-être les... Alors, je vais peut-être plus faire comme ça. Éviter, sans doute, Eminumil, parce que c'est pas le plus passionnant. Visiter
t'as
des
pas
lieux...
T'as pas de pression, tu veux dire.
Si, t'as toujours de la 4. Pression, mais c'est... Puis souvent, t'as envie de te battre, quoi. Tu veux, t'as envie de te bastonner un peu. Et là, bah, c'est des lieux. Donc, c'est bien parce que ça change, mais voilà.
Tu regrettais les trolls.
Ouais, non, j'aime beaucoup, mais bon, voilà, quoi. Karok, c'est chaud. Hein. J'ai beaucoup de mal de donner un top, en fait. C'est-à-dire que moi, je les ai toutes fait et j'ai pas non plus dit, bah, celle-là, celle-là, elle est moins bien. Alors,
Ah
je
bah
pourrais.
non, on s'en fiche, j'en veux celles qui sont mieux.
Mais non, mais je peux
T'en
pas
as
donner
pas
un
eu.
top, en fait.
Oh. Donc en fait,
Et
cher
après.
auditeur, il faudra bien que tu écoutes, faudra réécouter par rapport au scénario proposé par, enfin, résumé par Olivier pour choisir les extensions en fonction des affinités de jeu.
Ouais, alors ce qui.
Mais tu peux les faire dans le désordre, il n'y a pas d'ordre en fait.
Non, tu peux les
T'as
faire
pas le
comme.
risque de mise en rupture des premières sorties.
Bah, c'est plutôt ce que tu vois sur le site de Edge. C'est-à-dire que chez eux, les premières extensions sont plutôt en rupture. Et les dernières ne sont pas du tout, en fait.
Ouais, donc il vaut mieux effectivement aller au moins dans les achats
Mais après,
chronologiques.
alors attends. Après, il y a les moins, en fait. Il faut peut-être me laisser.
Ah, pardon, pardon, pardon.
Les moins, c'est que. Si tu vas plus loin. Il vaut mieux avoir le cycle complet. On a dit que.
Et ça complète tes cartes.
Ouais. Et c'est surtout, en fait, t'as pas de cartes qui te permettent de faire des scénarios, enfin, ou qui sont obligatoires pour faire des scénarios. Par contre, t'as des cartes qui vont bien ensemble. C'est-à-dire que si tu veux faire un deck à thème, par exemple les aigles, bah, t'es obligé d'avoir tout le cycle pour faire un deck
Oui,
aigle.
mais est-ce que tu en as vraiment besoin de faire ce deck à thème?
Non, c'est pourri les aigles. Non, mais c'est
Très
ça aussi,
bien, c'est.
ça c'est
Ah, c'est.
un autre point négatif, c'est que.
Non, mais donc du coup, c'est pour dire qu'il n'y a peut-être pas tant besoin que ça.
Non, mais.
C'est un petit moins.
Mais voilà, le problème, c'est que quand t'es là-dedans, et c'est un petit peu. Bah, tu vois, c'est un petit peu la conclusion qu'on peut avoir en écoutant les 5 minutes qui viennent de passer. C'est que. Tu sais pas dire que telle et telle extension sont des must-have, et que, à part peut-être l'extension sur demande qui est a priori très très bien, tu sais pas. Donc c'est ça, c'est le problème, c'est que dans ce cas-là, bah, tu vas acheter ton extension tous les mois, tu vas mettre tes 15 euros qui est dans l'absolu assez cher. Quand tu te retournes, tu te dis putain, ça fait 6 mois et j'ai claqué 90 euros, c'est super cher.
Faut regarder le temps
Après,
que t'as passé, les aventures que t'as vécues,
oui, mais c'est ça. Et
l'évasion.
après, tous les mois, bah, tu mets tes 15 euros, tu vas chercher ton. C'est comme quand tu vas chercher ton magazine ou je sais pas quoi, tu vas chercher ton extension. Sauf que bah, le prix, c'est un moins. 40 euros la boîte de base, les 6 extensions à 15 euros, plus Osgiliath à 15 euros, plus Khazad-dûm là à 30 euros. C'est un sacré investissement, quoi. C'est un moins. De toute façon, ça, c'est clairement un moins, quoi. C'est très varié si on achète régulièrement des extensions, mais en one shot, tu fais pas 50 parties. C'est-à-dire
Ouais, c'est
que
ce qu'on
quand
disait.
tu fais un scénario, voilà. C'est très technique,
Ah,
parfois.
ouais.
Je reconnais, non, je reconnais le côté technique, et même si moi ça me dérange pas,
Tu peux pas y échapper.
tu peux pas y échapper. Et le moins, ça peut être aussi la construction de deck. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a dit, en fait, c'est
Ah ouais,
pas un
c'est une
moins
question
pour
que je t'ai
moi.
posée en cours. Ouais, mais c'est ce que je vois moi pour certains joueurs.
Voilà, c'est ça.
Moi,
Je
je
vous.
pense que les joueurs veulent vivre juste l'immersion, veulent juste l'aventure et qui veulent pas avoir à gérer un deck à
Et ben,
construire.
qu'ils achètent que la boîte de base. Dans ce cas-là, vous achetez que la boîte de base,
Ouais, comme
vous
ça.
avez
Et on
pas
prend
assez
une couleur et
de.
terminé.
Ouais, c'est ça. Vous avez pas assez de cartes pour vraiment construire. Vous achetez une ou deux extensions qui est le. Sur le scénar
Ou
en disant ouais,
Khazad-dûm, du coup. Non.
ou Khazad-dûm,
Parce
mais.
que pour une moins de 30 euros, ça rajoute trois aventures. Est-ce que
Ouais.
c'est un bon choix? Non.
Je sais pas.
On
Je
sait
saurais
pas.
pas dire. Parce que les cartes sont. Ouais, je sais pas. J'ai pas mélangé, en fait, c'est ça le truc.
Ah, on va te le faire tout de suite, là.
Ouais, c'est ça.
Bouge pas, je te mélange tes cartes.
Et en fin de compte, il n'y a pas tant de cartes que ça. C'est aussi un moins que j'avais mis, en fait. C'est que en fin de compte, bah, contrairement à un jeu de cartes à collectionner, t'as des chiers de cartes. Bah là, t'en as beaucoup, mais en fait, par couleur, t'en as pas
Elles
tant
vont
que ça.
pas tant que ça ensemble, ouais.
Et c'est surtout que en 6 mois, en jeu de cartes à collectionner, il serait sorti 304 ou 400 cartes.
Ouais, même pas,
Et en
ouais.
fin de compte, là, sur les 60 cartes, t'as pas 60 cartes par mois
Non, ça y guette.
pour créer tes. Voilà, t'en as beaucoup moins, en fait. Donc c'est pas pour tout le monde. Il y a des gros points noirs. Par contre, c'est un magnifique jeu. Et c'est vraiment. Enfin, ça fait. On vous parle, en fait. Chez Proxy Jeux, on vous parle des cartes qui sont indispensables dans les. On vous parle des jeux qui sont indispensables dans les ludothèques. Et ça fait clairement. Enfin, ça s'essaye, quoi. Ça s'essaye.
Oui, la boîte de base déjà.
Oui, tout à fait. Ouais, et puis c'est pas un investissement qui est trop lourd pour essayer un jeu comme ça, quoi. Dernière chose avant de vous quitter. Des scénarios non officiels, il y en a une chier. C'est-à-dire que... Pardon. Des scénarios non officiels, il y en a énormément. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Donc, je vous mettrai le lien sur Proxy Jeux. Sur Board Game Geek, alors c'est en anglais bien sûr. Une grosse communauté avec énormément de scénarios, une vingtaine de scénarios différentes. Donc ça, c'est une grosse rejouabilité, même si je ne sais pas avec ce qu'il te faut exactement pour pouvoir jouer à ces scénarios, mais je pense que à la limite c'est pas un problème. C'est-à-dire que il y a différentes difficultés. Tu auras peut-être un choix un peu plus contraint, t'as peut-être un peu moins de choix, et donc ça va être un peu plus compliqué pour toi, mais en fin de compte...
Oui, non, mais je me souviens, quand le jeu est sorti, tout de suite, il y en a déjà qui étaient sortis avant le début du cycle 1. On en avait parlé, donc effectivement, en achetant juste une boîte de base, déjà, des joueurs qui veulent juste de l'immersion peuvent déjà trouver leur plaisir. Après, peut-être qu'ils sont moins variés, les scénarios...
Pas forcément aussi bien testé, pas forcément.
Oui, forcément. Mais bon.
Bon, après, c'est fait maison et voilà. Autre ressource qui est très très sympathique, c'est une geek list. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une geek list, c'est en fait une liste qui est faite par les utilisateurs du site Board Game Geek et qui va en fait vous permettre de voter sur ce que vous pensez des héros. Donc en fait, il y a, je regarde tout en bas, il y a 17 héros. Et ces 17 héros, alors il y a Théodred, il y a Bilbo, il y a Frodon, ben vous pouvez voter pour vous dire s'il est essentiel, s'il est excellent, s'il est bien, s'il est bof ou s'il est pas bon. Et puis vous pouvez voir les résultats surtout. Et vous voyez que, ben, par exemple, je vais prendre quelqu'un que vous connaissez. Je vais prendre Legolas. Legolas, il y a 127 votants et il y a 57% qui disent que c'est excellent et il y a 32% qui disent qu'il est essentiel sur 130 votants. Donc on sait que tu vas avoir tendance à le mettre dans ton jeu, quoi. C'est, voilà. Donc c'est encore, on revient un petit peu à ce qu'on disait dans le numéro 26, tu sais, les pages de spécialistes et les gens qui disent, qui tweakent un
conseils,
petit peu. Ouais. Ouais, c'est ça. Et ben là c'est ça, si vous vous posez une question sur un héros, vous allez voir. Et puis vous aurez tout ça. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire sur ce jeu magnifique.
Eh ben c'est bien. Moi ça m'a donné envie d'y
rejouer.
D'y jouer, ouais.
Voilà. Ben, c'est bien, c'est essentiel, c'est ce qu'on voulait. Donc
c'est terrible pour les auditeurs. C'est un dossier à ne pas écouter en fait. On va le mettre en intro.
Non, mais c'est pas. Il faut l'écouter. Après on essaye toujours de mettre les plus et les moins. C'est pas pour tout le monde. Mais il faut quand même, si vous êtes un petit peu féru, soit des terres du milieu, soit du jeu de société, il faut pas hésiter à mettre le doigt dedans. Donc,
ouais. Je peux une petite colle.
Bien sûr.
Parce que je pense à l'auditeur qui va l'écouter une première fois et qui va se dire « Ah ouais, alors du coup, maintenant, il faut que j'aille piocher telle ou telle extension, laquelle déjà, etc. » Pourrais-tu mettre un chapitrage au montage par extension ou... Tu vois.
Oui.
C'est compliqué, hein. Ça se trouve, ça se trouve. Mais à mon avis, ça peut être bien parce que après réécoute, comme ça permettra chez auditeur, il te suffira de prendre. Bien sûr, c'était sur iOS, sinon tant pis. Tu pourras comme ça retourner sur les chapitres par extension pour écouter certaines, peut-être pour voir si c'est celle qu'il te faut.
Eh bien voilà. Donc j'essaierai aussi pour les gens qui sont sous Android de mettre. De toute façon, je ferai un billet puisque j'ai pas mal gratté pour faire ce dossier. Je ferai un billet, je mettrai.
Le timing
pour vous aider à retrouver un petit peu ça. Voilà, donc JCE du Silence des Anneaux, c'est sorti en 2011, c'est à peu près 35 €, de 1 à 4 joueurs. À 1 joueur, on sent beaucoup la mécanique, et à 4 joueurs, c'est un peu facile, même si c'est un défaut qui a été corrigé. Donc plutôt pour 2 joueurs, à partir de 12 ans. Et bien 12 ans, parce que c'est quand même assez, assez complexe.
Des lectures, des cartes, beaucoup de techniques.
Et c'est chez Fantasy Flight Game en français, avec une sortie...
Chez Edge.
Oui, pardon, c'est chez Edge en français, avec une extension par mois à peu près, des cycles de 6 extensions, et chaque extension vaut à peu près 15 €. Voilà.
Avant de se quitter, si vous avez aimé ce dossier, on en a eu d'autres comme ça. On en a fait un sur Dominion, on en a fait un sur les jeux coopératifs.
Sur les jeux pour les enfants.
Les jeux pour les enfants. Donc, si vous nous découvrez ce podcast à travers ce dossier, voilà, vous avez de quoi... C'est encore de la matière. Et puis, n'oubliez pas nos numéros d'actu toutes les deux semaines.
Et on vous rappelle l'URL du site podcast.proxy-jeu-x.fr. Et puis, une application, si vous ne connaissez pas encore, une application... iOS et Android, vous tapez Proxy Jeux et puis vous le trouverez, il n'y a pas de problème, pour trouver les boutiques autour de chez vous, pour trouver les associations et vous tenir au courant des événements en cours en France, en Suisse et en Belgique. Bah écoutez, bonne réécoute et en attendant, au prochain podcast, prochain dossier, jouez bien.